Et dans le grand entretien ce matin, hommage à Toni Morrison, seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. C'était en 1993. Elle est morte lundi soir à l'âge de 88 ans. L'ex-président Barack Obama lui a rendu hommage, la qualifiant de trésor national. Son écriture représentait un superbe et profond défi à notre conscience et à notre imagination morale. Voilà ce qu'a écrit, ce qu'a dit Barack Obama, descendante du une famille d'esclaves. Toni Morrison a donné une visibilité littéraire aux Noirs. Elle a raconté leur souffrance dans l'histoire américaine. Nos invités pour évoquer son œuvre, Christine Laferrière, est dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traductrice des 4 derniers ouvrages de Toni Morrison. Au téléphone, Dominique Bourgois, éditrice de Toni Morrison et présidente de la maison. Christian Bourgois, bonjour.
Bonjour.
François Bunel est avec nous. François Bunel, présentateur de la Grande Librairie, directeur de la rédaction de la revue America. Bonjour François.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
On reviendra avec vous sur cette interview que vous avez réalisée il y a un an à New York, en avril 2018, avec Toni Morrison. Et puis au téléphone, en Guyane, avec nous, c'est le milieu de la nuit, on la remercie vraiment d'être en direct avec nous, Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux. Bonjour Madame Taubira.
Bonjour Pierre Veille.
Christiane Taubira.
Et bonjour à tous.
Bonjour. Comment avez-vous découvert la littérature, les mots de Toni Morrison?
Moi, j'ai commencé par Song of Solomon. J'étais rentrée en Guyane après mes études. Donc, je crois que j'ai découvert peu de temps après. Alors, les grandes auteurs africaines-américaines, je les ai découvertes par les États-Unis d'abord. Qu'il s'agisse de Toni Morrison, de Maya Angelou, de Zora Neale Hurston, ce sont des auteurs que j'ai découvertes soit en allant au Chamber Center, soit en traînant en librairie. Donc voilà comment je suis tombée, vraiment dégringolée, ou plutôt je me suis hissée dans cette littérature qui tranchait complètement avec ce que j'avais déjà lu, y compris en littérature. Qu'on qualifie africaine-américaine, je dis bien qu'on qualifie parce que Toni Morrison était impitoyable avec celles et ceux qui donnaient des étiquettes, enfermaient la littérature, le style, l'auteur, définissaient évidemment le contenu d'un livre ou l'esprit d'une écrivaine, d'un écrivain. Elle était absolument impitoyable parce que ce qu'il y a de fabuleux avec Toni Morrison, c'est non seulement une magnifique, profonde, puissante littérature avec une esthétique absolument éblouissante, des personnages extrêmement complexes, une qualité de construction des intrigues qui vous tient en haleine jusqu'au bout, alors que ce ne sont pas des livres à suspense ni des romans policiers, mais vous sentez que la vie bouillonne, qu'elle est effervescente et qu'il va se passer des choses jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière ponctuation. Mais en plus, elle explique, c'est-à-dire que parfois il y a des préfaces dans ses livres, elle donne des conférences, elle a fait une résidence au Louvre par exemple, il y a évidemment son discours de Nobel, mais il y a ses essais. Donc elle explique, et puis évidemment ses commentaires, parce que elle n'est pas dans le trip habituel des immenses auteurs avec sa vie intérieure, etc. Non, elle se confronte à la vie, à la parole, aux ambiguïtés des uns et des autres, aux irrationalités, oui. Elle se confronte à tout ça.
Toni Morrison a exploré toute l'histoire des Noirs américains, la couleur de peau, l'esclavage, la malédiction, la solitude, mais ces mots était souvent très rude, directe, c'était brutal.
Oui, mais elle n'a pas fait que ça, parce que justement, elle disait, notamment, je me rappelle que pour un de ses derniers livres, parce que ses derniers livres aussi, hein, je pense à Home, à Mercy, à Deliverance, God Help the Child, dans ce dernier livre, elle disait notamment qu'elle veut écrire. Elle veut pouvoir écrire sans forcément dire l'appartenance ethno-raciale, ethno-culturelle, etc., des personnages. Et que ça semble inaudible. Donc oui, elle a écrit avec Beloved et elle est allée au plus profond de l'humanité dans l'esclavage, au plus profond, au plus intime, au plus insupportable, au plus inconcevable. Mais Toni Morrison nous ramène constamment au monde. Donc avec elle, effectivement, on plonge dans toute la complexité de la construction des caractères africains-américains, en effet. Mais il y a, par exemple, des personnages d'oppression, des personnages de maîtres, d'esclavagistes aussi dans sa littérature. Donc elle est en capacité d'entrer dans ces personnages-là. Elle ne les décrit pas de façon caricaturale, contrairement à des auteurs blancs américains, par exemple, qui caricaturent beaucoup les personnages noirs que l'on trouve dans leurs ouvrages, et pas des moindres. Hein, je pense à Faulkner, par exemple, qui est un immense auteur.
Christiane Taubira.
Je pense à Hemingway. Voilà. Mais il n'empêche que... Toni Morrison, même lorsqu'elle plonge au plus profond à la fois des personnalités africaines-américaines, des situations dans l'esclavage ou post-esclavagiste, elle nous ramène au monde, elle nous renvoie au monde, elle nous raccorde au monde.
Vous avez...
En tout cas, moi, c'est ce que je reçois dans chacun de ses livres.
Vous avez évoqué ce livre, Beloved, paru en 1987, son triomphe mondial. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je rappelle que c'est l'histoire atroce, terrible, d'une ancienne esclave qui préfère tuer sa fille plutôt que d'avoir à subir le même sort qu'elle. Et ça se passe au 19e siècle. Dominique Bourgois est avec nous, éditrice de Toni Morrison, présidente de la maison Christian Bourgois. Dominique Bourgois, Toni Morrison, c'était une autorité morale aux États-Unis?
Oui, c'est une autorité morale, mais elle avait l'élégance de ne pas le revendiquer. Elle avait l'élégance de ne pas signer le manifeste, elle avait l'élégance de ne pas... Voilà, mais bien sûr, c'est une autorité morale, mais c'est un modèle. C'était un modèle pour beaucoup d'écrivains qui d'ailleurs ont témoigné cette nuit dans le New York Times, des écrivains qui vont de jeunes femmes comme Jemaine Ward à Salman Rushdie. C'était un modèle pour les écrivains aussi, et ça c'est très important de dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans ses livres qu'elle était militante, c'est dans ses livres qu'elle était exigeante, c'est dans sa prose, c'est dans le choix des mots, et c'est pas en signant des manifestes. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a eu, qu'il y a cette émotion générale à l'annonce de sa mort hier soir, parce que les écrivains, il y en a qui disent des choses très jolies. Franz Lebovitz a écrit cette nuit, Madame Morrison n'avait qu'un défaut, elle n'avait pas de fille, c'est-à-dire que je n'étais pas sa fille. C'est magnifique de dire ça, c'est une revendication de filiation qui est bouleversante. Et c'est ce qu'expriment beaucoup d'auteurs ce matin.
C'était une femme de caractère qui ne mâchait pas ses mots à propos de plusieurs bavures policières qui avaient eu lieu aux États-Unis. Elle disait en 2015...
Non, mais je pense qu'il ne faut pas dire ça. Hein, parce que, enfin, moi, c'est pas ce que je voudrais dire. Une des premières choses que m'a dit Mme Morrison quand on s'est rencontrés, rencontrés il y a très longtemps, hein, il y a plus de 30 ans, elle avait jeté une voiture de sport à un de ses fils et elle m'avait dit « J'ai qu'une peur, c'est qu'il se fasse arrêter par la police. » Et là, j'ai tout compris. Elle n'avait pas besoin de... Voilà. Elle le vivait intimement. Et quand elle m'a dit « J'ai peur qu'il se fasse arrêter par la police », parce qu'elle savait que comme il était un jeune garçon noir et qu'il avait une Porsche, ça se passerait mal.
Eh bien, en 2015, je voudrais quand même la citer. Elle avait dit « Je veux voir un flic tirer sur un adolescent blanc et sans défense. Je veux voir un homme blanc incarcéré pour avoir violé une femme noire. Alors seulement, si vous me demandez, en a-t-on fini avec les distinctions raciales ?» Je vous répondrai oui.
Bien sûr, mais elle l'a dit aussi, vous savez, quand on a commenté ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des photos incroyables de la catastrophe de Katrina, et quand on voyait tous ces gens noirs marcher dans l'eau jusqu'au cou avec leur sac poubelle sur la tête après la catastrophe de Katrina, on a commenté ça, elle me dit c'est des images de l'esclavage, on n'a pas vu ça depuis un siècle. Si vous voulez, il y a plusieurs moments qui ne sont pas que des moments de violence où elle a exprimé ça. Il y a des images très fortes. Et je veux dire que, hélas, les dernières années de sa vie, les derniers mois de sa vie ont été complètement, bouleversées par l'élection du président Trump. Enfin, je veux dire, ça restait sa rage quotidienne. Et on a commenté ensemble tellement d'événements. Et un des plus bels événements auxquels je pense ce matin, c'est quand le président Obama a chanté dans l'église où il était allé rendre hommage à toutes ces personnes qui avaient été tuées quand le président Obama a chanté Amazing Grace. C'est un événement incroyable. Et Madame Morrison était catholique croyante, et c'est quelque chose qui l'a profondément bouleversée aussi. J'espère que j'arrive à témoigner de ce qu'elle nous a transmis, si vous voulez.
Tout à fait. Merci Dominique Bourgois d'avoir été en ligne avec nous. François Bunel, Dominique Bourgois vient de parler de l'élection de Donald Trump que Toni Morrison a vécu, et vous en avez parlé avec elle lors de cette interview que vous avez réalisée à New York en avril 2018. Elle a eu des mots très durs pour Trump.
Oui, Pierre, oui, mais Dominique Bourgois a raison. C'est-à-dire que la grande force de Toni Morrison, et ce qui nous rend, je crois, tous très tristes aujourd'hui, tous ses lecteurs, c'est qu'elle réussissait à nous faire comprendre que si nous voulions parler de Trump, il fallait revenir à l'écriture et à la littérature. Je l'ai rencontré vraiment très très souvent, et beaucoup grâce à Dominique Bourgois d'ailleurs, qui m'avait permis de la rencontrer il y a 15 ans. Déjà, elle disait, évidemment, on me demande d'être la conscience morale de l'Amérique parce qu'il y a le prix Nobel, mais la conscience morale vous dit une chose, lisez. C'est le langage qui est politique. Et ça, elle l'expliquait extrêmement bien dans ses essais. Elle le disait à chaque fois, à chaque interview. Quand j'ai créé la revue America, je vais vous faire une confidence, Pierre. Je l'ai créée en 48 heures avec Eric Fotorino, et j'ai envoyé 3 mails à Philip Roth, Tom Wolfe et Toni Morrison. Tous les 3 ont répondu. Toni Morrison a répondu en 48 heures, venez, je vous attends. Et quand je suis arrivé en lui disant qu'est-ce qu'on fait, elle m'a dit parlez des gens, pas de ceux qui les gardent. Ne parlez pas de Trump, parlez des gens qui vivent sous Trump. Et vous voyez, ça raconte tout Toni Morrison là aussi, c'est-à-dire raconter des histoires, raconter ce qu'elle a fait, l'innocence confrontée au mal, raconter la mémoire défigurée, raconter les impasses, raconter la difficile libération des femmes noires aujourd'hui. L'anecdote qu'a racontée Dominique Bourgois est bouleversante parce que je crois qu'effectivement, Toni savait qu'il n'y a pas de pourquoi. À la fin de sa vie, elle a écrit une préface, j'espère qu'elle sera traduite bientôt, au texte de Primo Levi, Si c'est un homme, et elle m'a raconté qu'elle l'avait découvert très tardivement. Vous savez, c'est ce texte dans lequel Primo Levi raconte le moment où dans les camps de la mort à Auschwitz, un capot lui dit « Ici, il n'y a pas de pourquoi ». Et elle me disait « Cette phrase m'obsède, parce qu'en réalité, on peut aussi la comprendre et l'appliquer à ce qui se passe aujourd'hui, et depuis d'ailleurs 200 ans, avec les Noirs américains. Ça restera, je pense, Toni Morrison restera, bien sûr, pour ses interventions politiques, mais surtout pour ses interventions littéraires, pour avoir rappelé que la langue est politique, et elle est évidemment au niveau de Faulkner, dont parlait tout à l'heure de Christiane Taubira. Oui. Je pense même que Beloved, si vous voulez mon avis, est du niveau de Moby Dick. C'est aussi important que Melville.
François Bunel, je cite quand même ce qu'a dit Toni Morrison lorsque vous l'avez interviewé à propos de Trump. Elle vous a dit « Trump, c'est la personne la plus rétrograde, la plus mal informée que j'ai jamais vue. C'est douloureux, c'est dangereux. » Et ce qui est très inquiétant, elle l'a dit, c'est qu'il ne sait pas rire. Christine Laferrière, vous êtes traductrice des ouvrages, des derniers ouvrages de Toni Morrison. Lorsque vous découvrez un livre de Toni Morrison que vous allez traduire, qu'est-ce qui vous frappe d'abord dans son style d'écriture ?
Dans des proportions tout à fait équitables, la richesse et la rigueur, et puis aussi la vigueur.
Oui,
c'est une énergie permanente qui est à la fois radieuse et contenue, parce que le texte est forcément très très travaillé. Ce sont des textes très solides qui demandent énormément de concentration et qui vous donnent en même temps même beaucoup d'énergie.
Est-ce qu'on sent dans ces livres que c'était une femme mobilisée, une guerrière ?
Ah oui, oh oui, c'était une guerrière parce que elle réussissait et elle a réussi et elle réussit encore. Quoi qu'il soit arrivé, à analyser tous les problèmes de l'Amérique à toutes les époques, sous toutes les formes possibles, c'est-à-dire à la fois les conflits entre les blancs et les noirs, les conflits entre l'idéologie et la pratique, les conflits aussi entre les femmes dans leurs relations, soit intimes, soit familiales, soit sociales. Et c'est pour ça que pour elle, l'art était politique, et elle l'a dit d'ailleurs. C'est-à-dire que la lecture doit faire partie de l'intérêt qu'on porte aux affaires de la cité et de l'État. Donc lire était un acte politique, et pas seulement de son point de vue personnel, comme on l'a souvent dit. Hein. Je pense à l'anecdote qu'elle a souvent racontée, où elle expliquait que son grand-père, qui avait connu la Reconstruction, n'avait pas eu le droit d'apprendre à lire. Il l'avait fait, il avait lu la Bible 5 fois, parce que c'était un acte de révolte. Et elle-même a commencé à écrire et à lire quand elle était petite, en pensant à ça. Et l'art est politique, la lecture en ce sens est politique. Et je crois que la collaboration qu'elle exige du lecteur, parce que ce sont des textes dans lesquels le lecteur est impliqué, montre aussi à quel point les gens, effectivement, dont nous parlions tout à l'heure et dont elle avait demandé à François Pinel de parler, sont impliqués dans la mesure où ils font partie du processus d'élaboration du livre. Et j'ai pas envie de dire de l'écriture ni de l'histoire, mais du livre, avec tout ce que ça peut comporter pendant et après.
Christiane Taubira est toujours au téléphone avec nous en Guyane et on la remercie parce que chez vous en Guyane, c'est le milieu de la nuit. Christiane Taubira, Toni Morrison, oui. Est-ce qu'elle avait une vision pessimiste de l'humanité selon vous ?
Non, parce que moi je pense qu'elle avait une vision optimiste au sens où elle était d'une lucidité extrêmement fine, extrêmement subtile, extrêmement profonde, mais elle dégageait ce qu'il y avait chez les gens. Elle a des personnages féminins absolument fabuleux, complexes, contradictoires, insupportables, admirables. Il y a tout ça dans un même personnage. Il y a des tas de personnages, que ce soit dans Soula, dans Love, ou dans Deliverance, par exemple, ou même dans The Blue Eyes. Elle a des Beloved, elle a des personnages féminins en particulier, pas que, mais féminins en particulier, qui sont absolument fabuleux. Donc moi, s'il faut la classer entre pessimiste et optimiste, je dirais que c'est une irréductible optimiste. Parce qu'elle voit loin, parce qu'elle voit profondément, parce qu'elle voit intensément, parce qu'elle a cette arme de la langue, elle est en combat avec la langue. Moi, je lis Toni Morrison, je dis merci à Christine Laferrière, mais j'ai besoin d'être traductrice et traducteur. En tout cas, pour Toni Morrison, il y a des tas d'auteurs que je peux lire directement, mais j'ai besoin de lire l'auteur. Donc, j'ai besoin de lire son combat avec la langue, ses complicités avec la langue, ses arrangements et ses acrobaties, sa rigueur aussi, sa douceur parfois, la beauté somptueuse de la langue de Toni Morrison. Mais j'ai besoin, donc je lis toujours en même temps le livre original et la traduction. Donc, mille merci à Christine Laferrière, parce que vraiment, la traduction est de très, très grande, les traductions sont de très grande qualité. Donc, Toni Morrison, c'est cela quand même. Elle n'élague pas, elle ne dissimule pas, elle va au fond des choses, elle creuse, elle gratte, et puis elle en tire une lumière. Il y a toujours un ray de lumière qui en sort. Elle en tire quelque chose de lumineux, d'encourageant, de stimulant. Je dirais pas qu'elle est pessimiste. Non, elle est pas pessimiste. Elle est extrêmement lucide, parce qu'elle est capable d'analyser la situation. Et je parlais tout à l'heure de ses préfaces. Dans ses préfaces, elle dit... Et d'une certaine façon, elle est de parti pris au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas indifférente au monde. Elle n'est pas indifférente à la société dans laquelle elle vit. Elle n'est pas indifférente ni au malheur, ni aux tragédies, ni aux souffrances des uns et des autres, ni non plus au moment de répit, à la beauté des choses, à la paix qui peut, tisser juste une petite figure, un petit tableau. Elle est sensible à tout cela. Elle nous offre tout cela dans tous ses livres à des degrés divers. Et moi, ce que je me permettrais de dire, parce que j'aime tellement Toni Morrison, je lui suis d'une telle reconnaissance, c'est que son écriture dans ses derniers romans, je ne sais pas ce qu'en pense Christine Laferrière, ton écriture dans ses derniers romans, c'est l'écriture d'une personne apaisée, je ne sais pas est-ce que je peux m'autoriser à dire ça, mais elle a livré toutes ses batailles. Je pense qu'elle est sûre de les avoir toutes gagnées. Et puis, il y a une écriture dans Home, dans Mercy, dans Deliverance. Oui. Il y a une écriture, en plus d'histoires différentes, il y a une écriture qui m'a semblé devenir différente et qui montre une personne, j'ai fait le tour de tout. J'ai tout creusé.
J'ai tout exploré.
Ouais.
Très bien.
J'ai tout mis à l'épreuve. Et j'ai compris.
Christine Laferrière, cette analyse de Christiane Taubira, qui a le sentiment que Toni Morrison a réalisé, est arrivé à une sorte d'aboutissement dans ses écrits.
Oui, alors avant toute chose, merci infiniment à Madame Taubira car si j'ai réussi en effet à rendre ce qu'il fallait rendre pour le lecteur français ou francophone, écoutez, tant mieux, j'en suis ravie parce que c'est toujours très très difficile de traduire. Oui, Toni Morrison, durant les derniers ouvrages, a brillamment tenté la forme plus courte du récit, toujours en introduisant des variations de structure mais qui n'étaient pas comparables au texte précédent. Et je crois que ça pourrait aussi, dans un sens, illustrer parfaitement l'analyse d'une grande finesse, une grande justesse que vous venez de faire sur la capacité, la volonté de résistance. Et vous illustrez là parfaitement l'adjectif irréductible que vous avez employé.
François Bunel, Toni Morrison, quelquefois, elle s'est fait sévèrement critiquer dans la presse américaine où on trouvait que son style était, disons, trop appuyé, qu'elle y allait un peu trop fort dans la description de la situation américaine.
Oui, c'est vrai, mais bon, vous savez, ça fait partie aussi de l'état d'esprit américain qui n'aime pas beaucoup qu'on vienne le chatouiller. Enfin, on a la même chose en France. Elle a été très, très attaquée au début. Si on se souvient bien, au tout début des années 70, Toni Morrison avait réussi quelque chose qui restera dans l'histoire. Elle a dit, j'écris non pas pour la communauté, mais je raconte les tabous de la tribu. Je raconte ce qu'on ne dit pas. Je raconte le viol dans la communauté noire. C'était très très mal passé, hein, Soula et l'œil le plus bleu dont parlait tout à l'heure Christiane Taubira. Mais c'est précisément cette audace, ce courage, cette irrécupérabilité qui fait que elle est devenue, livre après livre, je pense, cette romancière qui est capable, encore une fois, de raconter ce qui ne fait pas plaisir. Vous savez, la littérature de Toni Morrison, c'est pas ce qu'on appelle des feel-good books, hein. Il s'agit pas de rassurer, il s'agit d'inquiéter et de ramener au sens de l'histoire par le langage. C'est là où elle est politique, c'est là où il y a l'intelligence rapide, extrêmement vive. Le contraste qui me saisissant, c'est entre ce qu'elle pouvait écrire et puis ce qu'elle était, elle, une femme extraordinairement drôle. Profonde, rapide. Je crois que tout le monde, là, ce matin, se souvient de ses interventions. Il faudra les repasser. Ce sont des interventions à la radio, c'est des interventions à la télévision.
François,
d'autres également.
Je me souviens.
Moi, je l'ai vu devant des centaines de personnes. Je me souviens, et Dominique Bourgoin était avec moi ce jour-là, il y a 15 ans, en plein hiver à New York, dans le milieu de l'après-midi, elle intervenait à 20h. Il y avait des files d'attente dignes d'une rockstar dans le froid, pour écouter Toni Morrison, et croyez-moi, il y avait toutes les couleurs de peau.
Et je me souviens, François, elle avait pris la défense de Bill Clinton, au moment où il avait pas mal d'ennuis, au moment de l'affaire Monica Lewinsky, avec cette formule, Bill Clinton, c'est le premier président noir des États-Unis, parce qu'on le traite comme un noir dans la rue, déjà coupable, déjà criminel.
Oui, c'est exactement ça. Ça avait été une phrase qui avait beaucoup choqué à l'époque et en même temps, aujourd'hui, qui a fait beaucoup progresser. Je me souviens de lui avoir dit une fois, vous savez, je suis devenu noir le jour où j'ai lu Beloved. Sur le moment, elle a haussé les épaules et des années plus tard, elle m'a dit, ah, vous savez, j'ai repensé à ce que vous m'avez dit. Et finalement, ça veut peut-être dire que le langage peut gagner. Et je crois que c'est vrai. Vous savez, je suis pas noir, je ne sais pas ce que c'est que l'esclavage. Mais quand je lis Toni Morrison, je le découvre. Je ne suis pas juif. Quand je lis Primo Levi, quand je lis Elie Wiesel, je découvre ce que c'est qu'avoir été à Auschwitz. C'est le pouvoir immense de la littérature, et Toni Morrison restera, grâce à ses livres, vraisemblablement l'un des écrivains majeurs de ce siècle.
Alors, il y a beaucoup de questions sur le site de l'émission des courriels, mais on n'a pas le temps de les diffuser. Je retiens cette question qui revient très souvent. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'œuvre de Toni Morrison, par quel livre faut-il commencer pour découvrir son œuvre? Christine Laferrière, très vite, on n'a plus beaucoup de temps. Un ouvrage?
Écoutez, peut-être, je dirais, Le Chant de Salomon, mais c'est peut-être aussi parce que c'est le premier que j'ai lu quand j'étais moi-même jeune au siècle dernier. Après, je dirais Beloved, et puis après, il faut les lire tous.
Christiane Taubira, il faut les lire tous. Un ouvrage que vous voulez recommander pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment l'œuvre de Toni Morrison?
Alors, selon qu'on veut s'attaquer à une immensité, c'est Song of Solomon, Chant de Salomon, en effet. Sinon, Soula, moi, je trouve que c'est une vraie merveille, Soula, entre ces deux adolescentes et leur parcours. Love a de très beaux personnages féminins également, mais les trois derniers sont des perfections totales. C'est-à-dire Home, Un Don et Délivrance, ce sont des perfections totales. Mais tout le reste est bon, évidemment. Beloved est très, très dur, mais absolument magnifique, absolument prodigieux. Et puis, même Paradise, même ça. Mais voilà, on entre dans ton sens. Ce que je dirais, c'est entrez-y, un ne vous plaît pas, déposez-le, vous y reviendrez. Voilà, donc entrez par Sula ou par Home, et si ça ne vous plaît pas, passez à autre chose, vous y reviendrez, mais ne renoncez pas à l'univers que vous offre Toni Morrison. Mais... ne renoncez pas, parce qu'elle vous renvoie à vous-même et elle vous rattache au monde.
Merci Christiane Taubira d'avoir été en ligne en pleine nuit en Guyane avec nous sur France Inter pour parler de Toni Morrison. Merci à nos invités François Bunel, Dominique Bourgoin et Christine Laferrière.